Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Sur Vlan, on a déjà parlé de biomimétisme, on a aussi parlé de lobby citoyen. Et aujourd'hui, je reçois Maxime de Rostellan, qui est l'une des personnalités les plus en vue sur l'écologie en France. Et il va nous expliquer comment il crée un mouvement qui s'appelle La Bascule, qui est un lobby citoyen, et comment ça peut avoir un impact sur la manière dont on va vivre demain. Donc je vous laisse avec cet épisode. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Maxime.
Bonjour.
On va parler d'engagement citoyen, on va parler d'écologie, beaucoup, peut-être d'effondrement un petit peu. La première question que j'ai pour toi, c'est pourquoi t'être engagé jeune, finalement, dans un mouvement écolo?
Je ne me suis pas engagé jeune dans un mouvement écolo, dans une dynamique écolo, ouais. Sans doute. Je pense... Ouais, non. Humaniste, peut-être plus tard. Le social est venu sans doute après, mais... au départ, j'ai eu la chance de voyager pas mal avec mes parents, de voir la nature changer. Je pense que ces sacs de plastique en Afrique morifiaient déjà. Ces traces de d'huile ou d'essence dans les ports, pareil, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment juste basique. C'est une vision de la nature qui me paraissait absurde. Et puis voilà. Et puis après, moi, je suis jongleur. J'aime bien être dans le verre. J'aime bien le bateau aussi. J'aime bien les territoires vierges. Et il n'y a plus trop ça, quoi. Et en fait, voir ça disparaître inconsciemment, parce que j'ai jamais eu de déclic ou un moment où je me suis dit ça y est, maintenant, je suis écolo. Non, c'est venu petit à petit.
Et t'avais plein de trucs. Tu peux revenir un petit peu sur les différentes étapes, parce que malgré tout, c'est intéressant, parce qu'on va arriver à ce que tu fais maintenant. Mais entre-temps, tu as créé Ferme d'Avenir. Il y a plein de choses qui se sont passées, en fait.
Bah ouais, j'ai grandi dans les beaux quartiers parisiens. Puis j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse, là où je me suis acheté mon combi Volkswagen dès que j'ai 18 ans. mon école, j'ai quand même eu le diplôme avec option jonglage et voyage.
Je faisais de la jonglerie, moi aussi, je faisais du diabolo.
Ah yes.
Diabolo de feu.
Ouais, cool. Je fais surtout des massues, des balles. Ouais. Et beaucoup de jonglage, beaucoup de voyages avec les potes en combi Volkswagen. Donc, on n'était vraiment jamais à l'école. Et j'ai fini mes études au Brésil. Et au Brésil, j'ai commencé à penser à la suite. Et je me suis dit, comme je n'ai pas vraiment fait mon stage, je suis parti de Sacodo pendant 2 mois et demi sur les 4 mois de mon stage. Je me suis dit, je vais faire un tour du monde en camion et je vais faire un truc axé sur l'eau. Et donc, j'ai décidé, avec deux potes, de monter un projet, donc en rentrant en France. Et donc, on a fait ce tour du monde de 2 ans en camion. On a écrit un bouquin qui s'appelait « Les aventuriers de l'or bleu ». C'était top. Et j'ai décidé de rentrer à la voile. Je me suis dit, en fait, je vais éviter de prendre l'avion maintenant. Cette conscience, après 2 ans de tour du monde, était assez forte. Et donc, en rentrant, j'ai commencé à bosser très vite. J'ai rencontré le prince jardinier, donc Louis-Albert de Breuil, un gars super, qui a monté le Conservatoire National de la Tomate, que vous pouvez aller visiter en Touraine avec 700 variétés de tomates. C'est quelqu'un qui a racheté la maison d'Hérol. D'Hérol, c'est une maison de sciences naturelles, connue pour les planches pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe, avec la carte de France, le corps humain. Il voulait remettre au goût du jour cette pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Donc là, j'ai commencé à embrasser tous les sujets développement durable et à bosser avec des boîtes, avec des écoles, avec des experts, avec des illustrateurs aussi, avec des industriels puisqu'il fallait imprimer tout ça. Et donc du coup, ça m'a fait un gros panorama de ce qui, des problèmes qu'il y avait à régler. Et c'est là que j'ai dit, en fait, on va pas y arriver comme ça. Mmh. L'éducation, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est hyper nécessaire, mais en fait, on voit que si on veut de l'impact, on n'arrive pas à le calculer sur ça. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme. Et là, grosse claque dans ma vie, le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer de la nature. Mmh. En gros, la nature, le vivant a 3 800 millions d'années d'expérience, et c'est faire que des technologies qui sont hyper résilientes, qui fonctionnent qu'avec le soleil, qui savent pas produire de déchets, qui sont vachement plus efficaces que les nôtres, quoi. Mmh. Nous, on veut rejouer à faire plus fort parce qu'on a le pétrole, mais en fait, quand il n'y en aura plus, on sera bien malin, quoi. et donc, le biomimétisme, là, gros souffle, bol d'air pour moi. Et là, je monte une assoce biomimicry avec Gauthier Chapelle, qui est le fondateur en Belgique. Et puis, on a refait ça en France. Et puis, en parallèle, je commence à bosser sur un truc de financement. Je me dis, il faut mettre ces trucs de crowdfunding, là, les mettre au bénéfice des entrepreneurs qui ont besoin d'argent et qui, par exemple, en Afrique, je revenais d'un tour du monde, n'arrive pas à avoir de crédit. Mmh. Et donc, du coup, on a attaqué le monopole bancaire. Donc, j'ai épuisé 3 avocats. Et donc, ça, c'était en parallèle de mon boulot. Et le 4e a fini. Donc, on était avec un pote, Thomas, qui à l'époque était sur le coup. Et donc, le 4e avocat a fini par nous amener à la Banque de France. Et on a lancé Bluebees. Donc, ça, c'était une vraie aventure entrepreneuriale qui continue de tourner. On a dû lever 7 millions d'euros depuis avec Bluebees. Et donc, comme moi, je patinais un petit peu dans l'éducation, je découvrais le biomimétisme, ça m'excitait. Et ouais. Le biomimétisme, en fait, c'est la porte d'entrée vers la permaculture. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai découvert les enjeux incroyables autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et je me suis dit, mais en fait... Et d'ailleurs, un bouquin qui s'appelle Biomimétisme, un bouquin que tout le monde devrait lire, qui est de Janine Bénus, chez Rue de l'Échiquier. Elle dresse tout ce qui peut se faire dans la nature et qui pourrait nous inspirer dans les transports, la santé, l'éducation, la construction et l'agriculture. Et en fait, l'agriculture, c'est le premier gros chapitre de son bouquin et c'est le plus gros. Et elle le conclut en disant, si on est convaincu qu'il faut changer de paradigme et de modèle, alors l'alimentation et l'agriculture, c'est le premier socle, c'est la première brique à poser. C'est le socle sur lequel reposer un nouveau paradigme. Et donc, j'ai plongé dedans et je me suis formé en maraîchage. Et puis, j'ai monté Ferme d'Avenir, j'ai quitté des rôles. En même temps, je montais Bluebees. Donc, je suis devenu maraîcher au bout d'un an et demi de formation. J'ai lancé cette ferme avec un Grégoire, qui est un gars super, qui est reparti monter sa ferme d'ailleurs. Et puis, cette ferme, en fait, a fait des petits, puisque assez vite, je me suis mis, en fait, je vais pas changer le monde depuis ma ferme. Mais clairement, il y a une dimension politique dans ce qu'on fait, parce qu'on veut que tout devienne bio, tout devienne beau, biodiversifié. Et donc, on a lancé la formation, puis les concours Ferme d'Avenir, puis le Tour Ferme d'Avenir. Tour Ferme d'Avenir en 2017, on est parti, on a fait 90 jours d'itinérance, on a fait 30 étapes de 3 jours. À chaque étape, on déployait 4 chapiteaux, on installait la cuisine, le concert, on faisait des conférences, des agriculteurs. Et on a visité 220 fermes au total sur 3 mois. Tout le monde était sur les rotules, merci à toute l'équipe d'ailleurs. Mais voilà, et donc là, voilà, ça, 2017, je commence vraiment à toucher du doigt les limites de la démonstration par l'exemple. On montre, on fait un tour de France, on voit qu'il y a deux...
Et pourquoi ça marche pas pour toi?
Bah ça a ses limites, c'est cool, ça inspire des gens, mais c'est pas la vitesse à laquelle il faudrait que ça aille.
Ouais.
C'est ça, c'est que il y a de plus en plus de gens, moi j'arrive pas à répondre... Si, je réponds à tous mes mails.
Je confirme.
J'ai 15 jours ouvrés en moyenne pour de délai, mais je reçois plein de mails de gens qui sont super heureux, qui ont trouvé des trucs super grâce à tout ça. Donc ça a un impact, mais en fait c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Si on regarde le Grenelle de l'environnement, il y a 10 ans, disait on va diviser par 2 d'ici 2015 les pesticides.
Lol.
Ouais, lol. On s'est pris quoi, 9% d'augmentation par an. Non mais. Allô, quoi, si on veut rajouter l'interjection. Mais et donc, ça va pas assez vite et il faut changer les choses et faire plus fort. Donc, en 2017, je finis le tour Ferme d'Avenir. Moi, j'avais rencontré Hulot quelques années auparavant. Il m'avait demandé en 2016 de participer à la réflexion autour d'une hypothèse, d'une candidature éventuelle à la présidentielle. Donc, on a travaillé plusieurs mois là-dessus. Et quand il a renoncé, moi j'ai été ça m'a foutu un coup de bambou, c'était en 2016 et je dis il faut absolument que qu'on crée les conditions favorables à l'émergence d'une candidature citoyenne, d'un mouvement citoyen qui puisse nous éviter fachos contre libéraux au prochain tour, quoi, à la prochaine présidentielle. Et donc ça a mûri dans ma tête petit à petit. 2017, donc Hulot devient ministre et par lui et par d'autres, par les conseillers de agricoles du ministère, etc. J'ai participé aux états généraux de l'alimentation et là je suis rentré dans la phase lobbying. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire passer des amendements. On avait déjà fait le plaidoyer Ferme d'Avenir, une pétition